EMCI TV vous présente Vie de foi, votre rendez-vous avec Pasteur Joël Spinks pour comprendre la parole, déclarer vos promesses et saisir votre victoire.
Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle joie pour nous de recevoir avec nous l'évangéliste Franck Alexandre. Bonjour, pasteur.
Bonjour, pasteur Joël. Merci pour l'invitation.
Gloire à Dieu. Merci d'être là avec nous. Nous avons été tellement bénis hier en parlant, de votre témoignage, en découvrant votre témoignage. Vous nous avez parlé, en fait, comment Dieu vous a touché. Il vous a vraiment révélé sa gloire. Vous êtes devenu un enfant de Dieu et ensuite, vous avez reçu l'appel au ministère.
Oui, c'était simultané.
C'était extraordinaire, comme j'ai dit hier. Vraiment extraordinaire.
Dieu est extraordinaire, donc rien de surprenant de la part de l'Éternel.
C'est vrai. Mais si vous avez raté l'émission d'hier, vous voulez visiter le site web EMCI TV et puis aller en archive sur la page Vie de foi, vraiment découvrir l'émission d'hier parce que c'est vraiment, vraiment particulier. Vous m'avez fait penser à l'apôtre Paul et sa conversion. C'est similaire, sauf vous étiez... dos d'un âne.
J'avais pas d'arrière-plan judaïque.
Non plus. Non plus.
L'occultisme, les ténèbres. Oui. Mais Dieu est tellement bon, il vient nous chercher dans nos ténèbres.
Amen.
Il est venu dans mes ténèbres.
Oui,
c'est ça. Un lieu de grâce.
C'est ça. Mais dans le sens aussi, votre appel, votre salut et votre appel au ministère en même temps, c'était vraiment particulier.
Très intense.
Puis, de voir aussi que vous avez été ravi en esprit. Bref, vous voulez revoir l'émission ou la découvrir si vous ne l'avez pas entendu hier. C'était vraiment béni. Aujourd'hui, on va parler en fait de la poursuite de Dieu et de l'intégrité morale, en fait, parce qu'on parle toute cette semaine des 10 secrets, pour avoir un ministère de puissance.
Oui, pour avoir un ministère de puissance et aussi pour vivre la puissance dans le ministère. Moi, j'ai deux passages qui m'ont interpellé dans la parole. Deutéronome 29:29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique les paroles de cette loi. Amen. Et Amos 3:7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et nous sommes avec mon épouse, nous célébrons nos 30 années de prédication, de ministère. Et au fil de ces années, ça m'a permis, en considérant toutes ces années, j'ai retiré quelques principes ou quelques vérités que Dieu inscrit profondément dans notre cœur, qui nous parlent en quelque sorte des secrets qui nous permettent de vivre cette puissance dans le service de Dieu. On a vu la radicalité de la conversion, le saut divin de la vocation, et puis là, l'importance de la poursuite de Dieu. Il y a un passage dans le psaume 27 aussi. Psaume 27, verset 4, « Je demande à l'Éternel ». Psaume 27, verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Le verset 8, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. » Je crois que c'est vraiment une des clés du résultat, du fruit dans le service, dans notre service avec le Seigneur. C'est l'envie de le chercher.
Et
le
je
désir
pense,
de rechercher Dieu.
Absolument. Je pense aussi que notre temps avec Dieu en privé va se traduire aussi dans le monde public, en fait. Et puis, des fois, moi, j'aime vraiment être dans la présence de Dieu. Pour moi, c'est vraiment mon endroit préféré. Même au-delà de la télévision, le ministère, des fois, je considérais, Seigneur, si tu m'appelais juste à l'intercession,
c'est ça.
Je serais heureux aussi.
Voilà, la
parce
prière.
Vraiment être dans la présence de Dieu, je pense qu'il n'y a rien de
la
mieux
méditation.
Pour nous. Oui, vraiment prier, chercher sa face et être dans la gloire de Dieu, l'onction de Dieu. Je trouve ça merveilleux. Mais Dieu nous appelle aussi à passer de la chambre secrète de prière et aller servir et vraiment être une voix pour lui. Et vous êtes une voix aussi. On va montrer à l'écran maintenant juste une photo d'une de vos dernières campagnes d'évangélisation. Donc, vous êtes une voix de Dieu dans les nations.
Par la grâce de Dieu. Je crois que c'est vraiment un effet de sa grâce. Quand je considère son appel, je suis toujours spectateur. Nous sommes acteurs dans le service, mais en même temps, je considère tellement la grâce du Seigneur que de permettre à l'homme que je suis, comme dit Paul, nous sommes des vases fragiles, de nous permettre de nous faire cette grâce, de nous adresser au maximum. Alors, c'est vrai que dès que je peux parler à quelqu'un, souvent même dans un avion, quand je suis assis à côté de quelqu'un pendant 14 heures,
c'est certain
il ne peut pas descendre en route. Il fait moins 40 à l'extérieur. Là, je parle de Jésus immédiatement à cette personne. J'essaye, en tout cas, je prie intérieurement pour gagner cet âme au Seigneur. Et puis, le Seigneur nous permet d'atteindre parfois des grandes foules.
Ah oui.
C'est aussi une grâce. Mais c'est vrai que la prière, chercher la présence de Dieu pour aussi faire le plein, faire le plein du Saint-Esprit. Paul le dit, soyez remplis du Saint-Esprit.
Amen.
Et pour être rempli du Saint-Esprit, il faut passer du temps avec l'Esprit de Dieu.
Mm-hmm.
Et ça, c'est mon désir. On démarre tous les matins avec mon équipe dans la prière, mais dès que je quitte le bureau, je sais que je rentre à la maison,
mm-hmm.
il est 17h15, et puis là, je me mets devant ma Bible, j'écoute aussi les prédications, je médite sur les Écritures, et puis je vois les heures qui défilent, 22h, 23h. J'aime passer du temps dans la présence de Dieu. Et nous avons vécu très vite avec mes parents, après notre délivrance de l'occultisme, eh bien, un résultat à la prière. Mmh. Parce que nous habitions dans une zone qui était vraiment sinistrée sur le plan économique.
Okay.
C'était le chômage, les entreprises fermées les unes après les autres. Et il y avait tellement de gens désœuvrés qu'on voulait leur parler de Jésus, mais on savait qu'il manquait quelque chose. Il fallait un témoignage d'amour.
Mmh.
Il fallait s'occuper d'eux. Il fallait faire quelque chose de concret. Jésus a dit à ses disciples, nourrissez-les, donnez-leur vous-même à manger.
Ouais.
Mais difficile pour la famille modeste que nous étions
mmh.
d'aider des pauvres.
Mmh.
Quand on est modeste, aider des pauvres, c'est très compliqué.
Ouais.
Alors, on a prié le Seigneur. Nous avons prié pendant plusieurs mois. Seigneur, aide-nous. Seigneur, pourvois nos besoins. Donne-nous les moyens d'aider ces malheureux. Quand un jour, on frappe à la porte, alors mon père ouvre et puis il se trouve devant lui un homme d'une grande taille, assez filiforme, je dirais des cheveux longs, une barbe longue, et il parle une langue étrange. C'est pas Jésus. Ça s'appelle un Hollandais.
Oh, wow.
Et avec ses grands bras de Hollandais, il faisait des grands signes sur le pas de la porte, et mon père se demandait ce que voulait cet homme. Et en fait, il l'invite à venir dehors. Mon père sort sur le trottoir. Il voit un semi-remorque, un grand camion, un grand truck, comme vous appelez ça
oui.
ici, qui est garé avec sa grande remorque immense. Et il fait signe à mon père pour dire, en quelque sorte, c'est pour toi, c'est pour toi. Et mon père ne comprend pas ce que ça veut dire. Et l'homme l'entraîne derrière. Il ne parle pas un mot de français. Il l'entraîne derrière le camion. Il ouvre les portes du camion. Et là, il y a des meubles, il y a des vêtements, il y a de la nourriture. Et il dit, wow. Alexandre. Et il y a le mot Alexandre. Il dit, c'est pour toi, Alexandre. Et mon père dit, mais qui êtes-vous? D'où venez-vous? On ne sait pas d'où il vient. Et mon père voit une pancarte écrite en langue hollandaise. Il est question d'une fondation évangélique. On arrive à décrypter fondation évangélique. On comprend que ce sont des évangéliques, mais on ne sait pas comment ils ont su que nous cherchons des moyens d'aider les malheureux.
Wow.
Et ce jour-là, j'ai découvert une chose, c'est qu'il n'y a pas plus têtu qu'un Hollandais. Parce qu'il a dit, moi, je ne repars pas avec ça. Ça reste ici, et mon père luttait avec lui pour lui dire, mais regardez, l'appartement que j'ai, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Ou voulez-vous que je mette un semi-remorque chez moi? Mon père est désemparé, et tout à coup, il dit, mais je vais à la mairie. Alors, il court à la mairie, il rencontre un responsable des services techniques, il explique ce qui était en train d'arriver, et puis les services techniques, eh bien, écoutent tout normalement mon papa, et puis l'homme lui dit, écoutez, nous avons des hangars qui sont vides, on les met à votre disposition.
Wow.
Nous n'avions que quelques mois de conversion, et nous nous sommes retrouvés à la tête de hangars dans lesquels, pendant plusieurs années, des semi-remorques nous ont livrés avec des meubles et de la nourriture. Et nous avons commencé à évangéliser les pauvres de cette ville pendant plusieurs années. Je rendais témoignage à chacune des personnes qui venaient trouver de l'aide dans cette œuvre sociale. Nous avons démarré, je dirais, notre ministère dans le diaconat, dans le service et dans l'aide aux pauvres et aux malheureux. Et nous avons vu combien le Seigneur a de la compassion pour les pauvres. Mais le résultat de cette abondance et de cette effusion, c'était la poursuite de Dieu.
Une chose merveilleuse aussi en vous entendant, vous n'avez pas poursuivi le ministère. Il y a des gens qui poursuivent le micro.
Oui, oui.
Mais vous avez poursuivi le cœur de Dieu et vous avez poursuivi vraiment le Seigneur.
Tout simplement.
Et c'est ça, si on veut être dans le ministère, en fait, nous pouvons tous exercer le ministère aujourd'hui même, n'est-ce pas?
Oui.
On va chercher la face de Dieu et puis si on cherche son cœur, bien il va nous aider ou nous inspirer toujours à aimer les perdus, aimer les pauvres, les défavorisés.
Il faut amener nos vases en fait. Nos vases sont vides.
Mm-hmm.
Nous on pleurait devant Dieu avec nos vases vides. Nous n'avons que des vases, ils sont vides.
Mm.
Et le Seigneur n'attend que cette prière-là pour dire mais
wow.
Je vais les remplir.
Gloire à Dieu.
Je vais les remplir. Et très vite j'ai pris conscience aussi dans la prière de mon besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit.
Mmh.
Alors, j'ai prié pour cela. J'avais été libéré des démons. J'avais commencé à chasser des démons. Je commençais à vivre des manifestations de la puissance de Dieu, mais pas dans une pleine mesure.
Mmh.
J'étais un peu, en lisant un peu les récits de Smith Wigglesworth, Je m'étais rendu compte qu'il avait des miracles avant même d'être baptisé du Saint-Esprit à l'âge de 47 ans, en 1907. Mmh. Et lui-même, il vivait déjà dans les mouvements de sainteté avec John Alexander Dewey. Oui. Ils avaient déjà des guérisons, ils avaient déjà des miracles. Mmh. Et quand il cherche Dieu, il dit « il y a plus, il doit y avoir plus mmh. ». Alors, il va chez les frères, il va à l'armée du salut, et puis il arrive chez les pentecôtistes, où là, une femme va prier pour lui, il va recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et lui, il dit « ce fut comme un accélérateur, comme une extension mmh. ». Et moi, je voyais tous ceux qui venaient, qui après quelques mois, recevaient déjà le baptême dans le Saint-Esprit. Mais moi, rien ne se passait. Alors, j'ai commencé à lire des livres sur la doctrine du baptême dans le Saint-Esprit, Howard Carter, Harold Orton, Donald G., Clément Lecossais, Smith Wigglesworth, etc. Je connaissais sur le bout des doigts la doctrine du baptême dans le Saint-Esprit, mais je ne parlais pas en langue, je ne vivais pas dans cette plénitude, je n'avais pas vécu cette expérience. Pendant 14 mois, j'ai cherché Dieu. Et un soir, le pasteur organise une soirée de recherche du baptême dans le Saint-Esprit. Et à minuit, j'ai mon train qui part en Allemagne parce que je vais être militaire, je vais être incorporé dans les forces françaises en Allemagne. Et je pars pour une année. Wow. Et toujours pas baptisé d'eau, pas baptisé dans le Saint-Esprit. Je dis, Seigneur, je vais partir en Allemagne, dans un pays étranger. Je ne suis même pas rempli de l'Esprit, j'ai besoin de ton Saint-Esprit. Et le pasteur met une réunion à 20h. Et je sais que cette réunion, cette soirée de recherche de Dieu dans la chambre haute, au dernier étage de cette assemblée, elle commençait à 20h, elle finissait vers 21h45. Et puis là, pendant 1h40, oui. « Seigneur, baptise-moi, Seigneur !» C'était la performance. « Seigneur, baptise-moi !» Depuis 14 mois, je cherchais l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et je sais qu'à 21h40, le pasteur se levait, prenait une petite feuille pour lire les annonces de la semaine et puis donner les informations. Et 21h40, je le vois qui commence à fouiller dans sa mallette, il sort son papier, il commence à se lever. Je dis « Non, Seigneur !» Et là, j'ai dit « Fais comme tu veux !» Et là, mon ami, bam, ça m'est tombé dessus. Et ça a été, je me suis écrasé dans la présence de Dieu. J'étais visité, j'ai vu ce feu descendre du ciel. C'était comme en vision, je voyais ce feu qui descendait, qui m'a pénétré. Je me suis mis à parler en d'autres langues. C'était un temps de visitation, un temps extraordinaire. Et à minuit, je suis donc allé à la gare. Et puis, je suis entré dans le train, dans un compartiment. Il y avait un compartiment qui était vide. Je suis rentré à l'intérieur, je me suis couché sur la banquette, je parlais en langue. Je parlais en langue tellement fort que dans ce train de permissionnaires, il y avait des militaires, des parachutistes, ils étaient là, ils avaient cuvé leur vin, il y avait vraiment des bagarres dans le hall de gare. Et je me suis mis dedans, je parlais en langue. Et toute la nuit, le train s'arrêtait à Metz, etc. Il faisait toute la ligne de l'Est. Les paras rentraient à l'intérieur. Quand ils ouvraient la porte, ils entendaient ce gars qui parlait en langue. Immédiatement, il la refermait, il se sauvait. Wow. J'étais rempli de la présence du Saint-Esprit. Mais c'était la conséquence de la recherche et de la poursuite de Dieu. Mmh. Et vraiment, Dieu nous attend dans ce domaine de la poursuite, de la recherche, aspirer aux dons spirituels.
Vous savez, dimanche matin, j'ai entendu un témoignage justement d'un pasteur qui était responsable d'une église très conservatrice. Et puis, il avait cette soif, comme vous mentionnez, cette soif de la présence de Dieu. Il disait, il y a plus. Et puis, comme il a cherché pour ce plus, il est arrivé au message du plein évangile, en fait, le baptême dans le Saint-Esprit. Et puis, il a reçu cette puissance d'en haut. Il a reçu ce langage spirituel. Il s'est mis à prier en d'autres langues. Et puis là, ensuite, son épouse aussi a eu cette soif. Et puis, elle aussi, elle a reçu de Dieu. Mais il était pasteur d'une église conservatrice. Oui. Et puis, les anciens de cette église lui ont dit, écoutez, votre expérience n'est pas conforme à notre doctrine d'église. Wow. Donc, c'est soit que vous allez abandonner votre expérience et vous allez vous conformer à notre enseignement, ou on va vous congédier. Donc, il était devant cette décision, soit le Saint-Esprit ou les hommes. Et puis, finalement, bien lui a décidé, donc je vais poursuivre avec Dieu. Mais juste avant, il devait en fait rencontrer les anciens de cette église pour passer dans un bureau et puis échanger, bref, prendre une décision avec eux. Et puis, son épouse devait aller le rejoindre à l'église. Mais en chemin, le Saint-Esprit lui a dit, non, rentre à la maison. Elle est en voiture, mais rentre à la maison. Puis elle arrive à la maison et son fils adolescent était là. Il était sur le point de se suicider. Il avait un fusil et puis il était sur le point de s'enlever la vie. Elle arrive et puis elle voit son fils comme ça. Elle peut le secourir. Mmh. Et finalement, elle lui dit, non, tu as une destinée en Dieu. Bref, elle commence à déclarer la vie sur son fils. Et puis, comme il s'est vraiment abandonné entre les mains de Dieu, ce jeune homme-là a été sauvé et baptisé du Saint-Esprit en même temps. Wow. Et puis, immédiatement après. Et puis, finalement, elle laisse son fils maintenant sauvé, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit à la maison, dans la bénédiction. Elle va finalement à l'église où les anciens parlaient avec son époux. Elle est arrivée en retard. Wow. Et puis elle a dit, écoutez, il n'y a rien au monde qui peut nous enlever ce que nous avons reçu de Dieu. Nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est de Dieu. Et puis c'est la puissance de Dieu. Elle a dit aussi, et en fait, le baptême du Saint-Esprit a sauvé mon fils. Donc, si mon fils est vivant aujourd'hui, c'est grâce à la présence de Dieu qui est venue sur lui. Et puis finalement, les anciens ont décidé, au lieu de chasser ces gens, le pasteur et son épouse, ils ont vécu leur réveil dans cette église. Ah, au lieu de chasser le Saint-Esprit et les pasteurs, ils ont dit finalement, c'est vrai ce que vous avez vécu. Et puis, ils ont eu cette soif également. Et le Saint-Esprit a visité cette église. Et puis, voilà, moi, je crois que peu importe la dénomination d'église, je crois que si nous avons soif de Dieu, bien, on doit recevoir la plénitude du Saint-Esprit comme vous avez reçu.
Et ça produit immédiatement le mouvement. Mm-hmm. Immédiatement le mouvement.
Oui.
Et puis, il y a un autre secret qui est extrêmement important, je crois, pour vivre la puissance dans le service, mm-hmm. c'est l'intégrité morale et spirituelle.
Amen. Oui.
Nous connaissons ce passage où, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 6, l'auteur nous rappelle ceci. « Celui qui dit qu'il est en lui doit marcher lui-même comme Jésus a marché. » Il nous faut marcher comme le Seigneur a marché. Mm-hmm. Il y a cet autre passage que j'aime beaucoup aussi, toujours dans les psaumes. Dans le psaume 84, versets 11 à 12. Psaume 84, versets 11 à 12. « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs.
Oui.
Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » C'est là on voit le lien important entre la poursuite de Dieu et l'intégrité. Il y a vraiment un lien entre les deux. « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. » Il est le soleil qui aveugle nos ennemis aussi. Hein.
Mmh.
« L'Éternel, non seulement il fait briller sa gloire sur nos vies, mais il aveugle nos ennemis. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. »
Amen.
Il ne leur refuse aucun bien. Mmh. Et la Bible nous parle de ces hommes d'élite qui sont entrés dans la ligne de mire de Satan et qui, malheureusement, sont ces héros qui sont tombés au combat.
Mm-hmm.
Et trop de ministères, trop de rachetés, malheureusement, passent à côté de leur destinée parce qu'ils ne veillent pas sur leur intégrité. Il y a ce passage de 1 Jean 5, 18. « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Le texte ne dit pas qu'il ne pêche pas, il nous arrive à tous de pécher. Mais il est question là de la pratique du péché, c'est-à-dire de faire,
de vivre.
Faire du péché vraiment une vie qui s'organise autour du péché. « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. »
Amen.
L'intégrité morale et spirituelle. Il faut vraiment ne donner aucun accès au diable. Et j'ai fait une expérience vraiment, je dirais douloureuse, au Pakistan au cours d'une campagne. C'était à Faisalabad au début des années 2000. Mm-hmm. Nous avons eu toute une série de campagnes au Pakistan à une certaine époque. C'était à Gujranwala. On avait des foules jusqu'à 10 à 15 000 personnes en un seul service qui venaient écouter l'Évangile. Et au cours de l'une de ces réunions, à la fin de la réunion du soir en plein air, il y avait encore quelques possédés qui se manifestaient, qui étaient à terre et des conseillers s'occupaient d'eux. Et il y avait une femme qui était très virulente et des responsables nous ont appelés pour venir leur donner un coup de main. Alors avec le pasteur qui avait organisé la campagne, nous sommes allés prier pour cette personne, pour la libérer de cette puissance démoniaque. Et il y avait avec nous un jeune homme qui était un jeune missionnaire en formation. C'était un jeune homme d'Europe du Nord. Mais ce jeune homme avait un problème spirituel. Dire que la veille, je dormais dans une petite case, il y avait une petite lucarne ouverte et j'avais entendu, malgré moi, j'avais entendu une conversation sur la cour entre son formateur, qui était un pasteur pakistanais, et le jeune missionnaire. Et le pasteur pakistanais lui reprochait le soir de sortir et d'aller se promener dans des quartiers qui sont mal famés. Quelqu'un passant en voiture l'avait aperçu. Et donc, il l'avait rapporté au pasteur. Et comme ce jeune d'Europe du Nord était grand, blond, aux yeux bleus, le pasteur pakistanais lui avait dit « Mais vous savez que vous risquez d'être kidnappé. Vous ne devez pas marcher tout seul le soir dans les rues de la ville de Lahore. Vous devez rester ici, on vous l'a déjà dit plusieurs fois. » Mais ce jeune missionnaire n'écoutait pas. Et puis là, devant l'estrade, tout à coup, la femme possédée se manifeste et par sa bouche, le démon parle. Cette femme était une villageoise, elle ne parlait pas l'anglais, seulement l'ourdou. Mais quand elle a parlé, elle s'est exprimée dans un anglais très clair. Et elle s'est adressée juste en face de nous au jeune missionnaire pour lui dire, le démon lui a dit, « Mais je te connais, je te vois quand tu te promènes le soir dans les quartiers de Lahore et que tu pêches avec les femmes prostituées. » Mon ami, ça a été, j'ai vu ce jeune missionnaire. Tout à coup, on a commandé au démon de se taire, mais c'était trop tard. Il avait libéré cette parole et le missionnaire est tombé à genoux. Le jeune missionnaire est tombé à genoux. C'était pour moi une leçon tellement, tellement forte, tellement puissante. Mm-hmm. Et ce jeune homme a quitté le ministère suite à cela. Mm-hmm. Il a quitté le ministère. Il est resté au Pakistan. Il s'est mis à fumer des cigares et à fréquenter le quartier des prostituées. C'est terrible.
La crainte de Dieu va nous garder, n'est-ce pas? C'est ça, ce jeune homme-là n'avait pas la crainte de Dieu.
C'est ça. Et vraiment, ceux qui nous écoutent, je veux vraiment les interpeller sur ce domaine de la sainteté.
Absolument.
On vit à une époque, je dirais, d'hyperpuissance avec le monde des médias, tout est à la portée de la main, les messages, les exhortations. Nous sommes tous encouragés, exhortés sans cesse, mais la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse.
Amen.
Et Dieu nous appelle à vivre dans sa présence et il dit « Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité ».
Amen.
Et si nous laissons des failles dans cette cuirasse de la sainteté, l'ennemi, à un moment ou à un autre, nous touchera et comme il l'a fait avec ce jeune homme, il nous infligera une gifle satanique.
Mm-hmm.
Il nous faut vraiment nous préserver dans ce domaine. On se souvient du combat de Paul aussi contre les démons. La Bible nous rappelle que les démons connaissaient Jésus, ils connaissent Jésus, ils savaient qui était Paul.
Mm-hmm.
Et c'est important parce que le royaume des ténèbres nous connaît. Et comment nous connaît-il?
Mm-hmm.
Est-ce qu'il nous connaît dans cette totale et complète intégrité ou est-ce qu'il nous voit nous aventurer sur les chemins du péché? Là, nous sommes littéralement en danger. Et je me souviens d'un appel de notre coordinateur qui vit en Inde. Il m'appelle un jour en urgence en me disant « Franck, il y a une famille hindoue que nous sommes en train de conduire à Jésus, mais leur fille est possédée. Et à chaque fois que je prêche l'évangile ou que je prie pour elle, les démons se manifestent, mais nous ne parvenons pas à libérer cet enfant. Mm-hmm. Veux-tu, avec ton équipe, prier, nous aider, vous joindre à nous dans l'intercession ?» Et on a commencé à le faire. Et le lendemain, le téléphone sonne et le coordinateur indien m'appelle et il me dit « Franck, ça y est, le démon est parti. » Je dis « Ah bon, gloire à Dieu, le Seigneur a libéré cet enfant. » Mais il me dit « Sais-tu comment il est parti ?» Il est parti et il est sorti en m'injuriant et en me reprochant d'avoir fait appel à toi et à ton équipe. Il le savait.
Wow.
Le démon était au courant que ce coordinateur avait fait appel à notre équipe pour intercéder afin que le démon parte. Vous savez, le monde des ténèbres nous voit et il est bien conscient, il est subtil et il est perfide et il cherchera par tous les moyens à nous disqualifier.
Pasteur, je vais vous demander de prier dans quelques instants pour les gens qui veulent justement se consacrer à Dieu. Parce que comme vous dites, c'est absolument vrai que le royaume des ténèbres est conscient si nous sommes consacrés ou si nous sommes éloignés de Dieu. Et récemment, nous, on a démarré à l'église la prière, en fait, de 7h à 8h chaque jour, 7 jours sur 7 et à 16h. Donc, nous avons 2 heures de prière à tous les jours. Et quand on est vraiment à la poursuite de Dieu, nous sommes sérieux, en fait. Nous disons, nous voulons voir la gloire de Dieu.
Amen.
Et puis, comme on a commencé à chercher la face de Dieu, on cherchait toujours autrefois, mais pas aussi intensément.
Ouais.
Là, nous sommes vraiment décidés, nous voulons voir la gloire de Dieu. Et puis, ce qui est vraiment spécial, c'est que, en fait, il y avait une jeune femme dans notre église qui a reçu dans son esprit, va dans le stationnement de l'église. Et puis, elle sort dehors, et puis il y avait un homme qui est en train de maudire notre église, qui est en train de lancer des paroles de malédiction contre nous. Et là, elle annulait, en fait. Au nom de Jésus, j'annule ses paroles. Une autre sœur de l'église aussi a été réveillée à 4h le matin. Et puis Dieu lui dit, va-t'en dans le stationnement de l'église. Elle arrive et puis il y a un homme en train de maudire notre église. Et puis elle est là aussi pour annuler les paroles de malédiction. Mais là, je me suis dit, on n'a jamais vécu ça autrefois. Pourquoi, d'un seul coup, on voit une opposition spirituelle? C'est dès qu'on commence à rechercher Dieu, être à la poursuite de Dieu. Pas simplement être dans une relation avec le Seigneur comme nous avons été autrefois. Bon, on était consacrés, on priait, on cherchait Dieu. Mais là, vraiment intensément dire, on veut vivre la gloire de Dieu, on veut que Dieu se manifeste avec puissance. Et là, le royaume des ténèbres réalise en fait que ces gens sont sérieux, ils vont nous déranger. Donc, on va les maudire, mais ils ne peuvent pas maudire ce que Dieu a béni, n'est-ce pas?
C'est clair.
Donc, nous devons être conscients qu'il y a une réalité spirituelle qui est là.
L'enchantement, la divination n'ont pas de pouvoir contre l'Église.
Exactement.
Ils le proclament, ils vivent.
C'est ça. Et on n'a pas besoin d'avoir peur, parce que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Mais on doit réaliser que nous sommes dans une guerre spirituelle.
Et on réveille l'ennemi. Je me souviens, quand j'étais gamin, on avait un chat qui était un peu fou à la maison. Et quand je dormais sur le fauteuil, le chat dormait à terre. Mais dès que je me réveillais, tout à coup, Il sursautait. Mon réveil le réveillait. Et lorsque l'Église se réveille, l'ennemi se met en marche contre l'Église.
C'est ça. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur, mais on a juste besoin de vraiment exercer notre autorité spirituelle.
Conscient de notre identité, notre autorité.
Et pourriez-vous prier maintenant pour les personnes à la maison qui aimeraient vraiment se consacrer, qui veulent dire, je veux vraiment poursuivre Dieu et l'intégrité, vraiment, je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie et porter du fruit dans le ministère.
Amen.
Amen.
Seigneur, je prie pour ceux qui sont en train de regarder ce programme en cet instant, qui veulent te servir, mais qui savent qu'il y a dans leur vie certaines failles que l'ennemi a même commencé à exploiter. Je prie, Seigneur, parce que pour certains, le péché se couche même à leur porte. Et je prie, Seigneur, qu'ils prennent maintenant autorité sur ces situations, qu'ils exercent cette autorité d'enfant de Dieu pour sanctifier leur vie. Tu nous dis que tu nous sanctifies, tu nous demandes aussi de nous sanctifier par le moyen de ta parole, par le moyen de la prière, par le moyen de la repentance et du sang précieux de Jésus qui nous purifie de tout péché. Là où vous êtes, priez, proclamez, déclarez que vous avez fait le choix de marcher fidèlement et avec intégrité devant le Dieu des cieux et pour la gloire de Jésus qui est mort sur la croix, pour vos péchés, qui est ressuscité le troisième jour et qui vous a accordé le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Il conserve cette onction sur la vie de ceux qui vivent dans un esprit d'obéissance. Et notre désir, Père Céleste, c'est de t'obéir, c'est de t'honorer, de te glorifier, afin que ta gloire se manifeste au travers de nous. Nous avons prié, nous voulons le déclarer. Tu es le Dieu saint. Et les anges dans le ciel déclarent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Et ton Église, c'est l'Église des rachetés qui ont été justifiés, sanctifiés par l'Esprit et par le sang de Jésus-Christ.
Amen.
Amen.
Gloire à Dieu. Il nous reste une minute. Pouvez-vous prier pour ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit?
Oui.
Je crois que même les secondes qui restent sont suffisantes.
Amen. Là où vous êtes, recevez maintenant l'onction du Saint-Esprit et parlez en langue. Libérez les langues. Laissez l'Esprit vous remplir. Laissez-le vous immerger, laissez-le faire monter du plus profond de votre âme des fleuves, des fleuves, des fleuves. Alléluia. Jésus a dit, des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein jusque dans la vie éternelle. Alors vous êtes rempli, 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 mais laissez maintenant libérer ces langues et glorifiez-le. Même si ce ne sont que quelques balbutiements, la Bible dit que c'est par un peuple au langage barbare qu'il parlera aux nations, et c'est par des lèvres balbutiantes qu'il est glorifié. Et votre langue nouvelle va s'affermir, et elle va devenir glorieuse. Soyez baptisés dans le Saint-Esprit, remplis de l'Esprit.
Amen. Gloire à Dieu. Merci, merci, merci. Nous avons été bénis vraiment dans cette émission et je crois que vous avez été bénis également. Si vous avez pris cette décision aujourd'hui de poursuivre le Seigneur de tout votre cœur, bien je crois que Dieu a entendu la prière de votre cœur. Il va vous aider, il va vous accompagner. Et puis, si vous avez reçu le baptême de l'Esprit aujourd'hui, bien gloire à Dieu. Vous avez reçu une puissance qui va vous aider vraiment à aller de l'avant dans votre relation avec le Seigneur. Amen.
Amen.
Donc, on se réjouit aujourd'hui de tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Et puis, je crois aujourd'hui, vous avez été bénis. Donc, c'est un rendez-vous demain à ne pas manquer. Merci infiniment et merci à vous d'avoir été là.
Merci.
D'ici à demain, soyez richement bénis.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Vie de foi sur emcitv.com.